Bien, bonjour à tous. Un plaisir pour moi d'être au milieu de vous dans ce dimanche. Donc je vais vous partager la parole du Seigneur. Je pense que vous nous connaissez tous à peu près. Je suis le pasteur Olivier de l'église biblique baptiste à Saint-Laurent-du-Maroni. Bien, prions. Père éternel, nous te bénissons encore une fois ce matin. Nous te remercions de ce que tu nous permets d'être réunis afin de pouvoir glorifier ton Saint-Nom. Père, nous te prions afin que tu puisses disposer notre cœur, afin que nous puissions te glorifier comme il se doit. Nous te prions afin que toute notre attention puisse être sur ta parole, sur toi, sur ta personne. Et que tu puisses nous aider par l'action du Saint-Esprit à offrir le meilleur de nous-mêmes dans notre disposition, notre écoute. Père, que tu puisses nous diriger également afin que ta parole soit prêchée avec fidélité et droiture au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien, ce matin j'ai à cœur de vous parler de la souffrance. Trop souvent, lorsqu'on annonce l'Évangile, nous montrons aux personnes auxquelles nous nous adressons une partie très appréciée de l'Évangile, c'est-à-dire les bienfaits de Jésus, sa gloire, la joie, tout ce qui nous paraît bon, pas qui paraît bon pour Dieu, mais qui nous paraît bon. Que nous aimons. Une fois, j'ai prêché une fois sur justement la souffrance et un frère de l'église m'avait fait remarquer qu'ils n'entendaient pas beaucoup ce genre de message. C'est quoi le message qu'ils n'entendaient pas? La souffrance. Pas « je souffre et Dieu va venir me guérir »,« je souffre et Dieu va venir me consoler ». Ce message, c'est « Vous devrez souffrir pour Jésus-Christ. » Et ça, ça fait partie de l'Évangile. Et l'apôtre Paul nous explique également que si nous partageons la gloire de Jésus, la puissance de Jésus, nous devrions aussi participer à sa souffrance. Et Jésus-Christ a souffert une fois pour toutes. Il a souffert pour que nos péchés puissent être pardonnés. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Mais, malheureusement ou heureusement, la souffrance doit faire partie de la vie des chrétiens. Oui. Si vous avez accepté Jésus-Christ, si vous réfléchissez à accepter Jésus-Christ, sachez que vous devrez souffrir pour le nom de Jésus. C'est la volonté de Dieu. On va ouvrir nos Bibles dans la lettre de Pierre, la première lettre de Pierre. Nous allons voir que nous sommes appelés à souffrir dans l'obéissance afin que Dieu soit glorifié. Le chrétien doit souffrir dans l'obéissance afin que Dieu soit glorifié. La première lettre de Pierre s'adresse à des chrétiens qui ont fui parce qu'ils étaient persécutés. Nous allons lire le chapitre 1, versets 1 à 2. 1 Pierre, 1, versets 1 à 2. La parole de Dieu nous dit, « Pierre, apôtre de Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père,
par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Frères et sœurs, chers amis, que se passe-t-il? Nous avons des personnes qui ont accepté Jésus-Christ et sont devenues chrétiens. Et parce qu'ils sont devenus chrétiens, ils ont dû fuir là où ils étaient parce qu'ils étaient persécutés. Et c'est à eux que l'apôtre Pierre écrit cette lettre. Il écrit cette lettre à tous les chrétiens qui ne sont pas forcément juifs et qui sont dispersés partout dans toutes les régions parce qu'ils sont devenus chrétiens et parce qu'on les persécute parce qu'ils sont chrétiens. Dieu ne nous a jamais promis d'avoir une belle vie en tant que chrétien. Il nous a simplement dit, tout va bien. Il est avec nous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il nous dit, ne vous inquiétez pas de quoi serez-vous vêtus, de quoi allez-vous manger. Ça, ce sont les païens, ce sont les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ qui s'inquiètent pour ce genre de choses. Mais à ceux qui sont chrétiens, il nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais il ne nous a jamais dit, tout va bien se passer, que votre chemin sera comme un fleuve, un lit tranquille, où vous ne rencontrerez pas de problème. Non. Au contraire. Avant de venir à Jésus-Christ, Dieu nous appelle effectivement à nous repentir, mais à bien prendre conscience qu'est-ce que cela implique, la conversion. Jésus-Christ dit, il n'est pas venu apporter la paix dans une famille, il est venu apporter au contraire la division. Qu'est-ce que la division? De quoi parle-t-il? Il parle de la mère qui ne va plus s'entendre avec la belle-fille, le père qui sera fâché avec son fils. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ vous dit, si vous n'êtes pas prêt à abandonner vos maisons, vos terrains, abandonner votre père, votre mère, vos enfants pour Christ, vous n'êtes pas digne pour le royaume de Dieu. Donc rien que là, vous voyez que suivre Jésus-Christ a des conséquences. Il y a un choix que vous devrez faire dans votre vie. De toute manière, vous verrez que vous allez souffrir. Soit parce que vous êtes en Jésus-Christ, soit parce que vous n'êtes pas en Jésus-Christ. La souffrance fait partie de la vie. C'est pour ça que Jésus-Christ, d'ailleurs, a été crucifié. Dieu aurait pu choisir un autre type de mort pour Jésus. Jésus aurait pu mourir dans son sommeil. Il aurait pu avoir un accident et il meurt tout de suite sur le coup. On aurait pu d'ailleurs décapiter Jésus. Il serait mort direct. Mais non. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a choisi l'instrument de torture le plus horrible qui existait dans l'Empire romain, la croix. Vous savez que la croix, c'est un instrument de torture? Vous saviez qu'on mettait les prisonniers dessus, qu'on les suspendait le matin, et que c'est vraiment vers le soir qu'ils mouraient? Saviez-vous qu'on attachait leurs pieds, leurs mains avec des clous, et que parfois, ils étouffaient par rapport à leur propre poids? Et lorsqu'ils essayaient de prendre appui sur leurs pieds pour chercher de l'air et pouvoir respirer et tenir bon, ils souffraient encore plus. C'est cela qu'on appelle notre Seigneur Jésus, homme de douleur, homme de souffrance. Parce qu'il a plu à Dieu de le faire passer par là, afin que nos péchés puissent être expiés. Nos péchés ont été expiés, ont été effacés, bien sûr à tous ceux et celles qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, par la mort même de Jésus-Christ. À un moment donné, sur cette croix horrible, nos péchés ont été mis sur Jésus-Christ. Il les a portés sur lui. Afin que quiconque croit en Jésus-Christ puisse être justifié en Dieu. Puisse être déclaré juste. Non pas qu'il ait fait quelque chose de bien, non. C'est tout simplement parce que Jésus-Christ a tout accompli. Maintenant, que dit la lettre de Pierre? Il encourage ceux qui ont accepté Jésus-Christ à persévérer. Et l'apôtre Pierre leur demande de ne pas baisser les bras parce qu'ils vont rencontrer des difficultés dans leur vie. Mon premier point ce matin, c'est de vous dire que vous devrez souffrir dans l'obéissance. C'est dans l'obéissance à Jésus-Christ que vous devrez apprendre à souffrir. Pierre 6, verset 7. Regardez ce que dit le verset 6 au chapitre 1 de la première lettre de Pierre. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. C'est ce que nous dit la Bible. Puisqu'il le faut, il faut que les chrétiens passent par la souffrance, par les difficultés. Ça fait partie de votre vie chrétienne. Mais vous devez souffrir parce que vous obéissez à Jésus-Christ. Non pas parce que vous ne l'obéissez pas. Et si vous souffrez parce que vous obéissez à Jésus-Christ, alors vous êtes un homme, vous êtes une femme heureuse. C'est ce que la Bible nous dit. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Pourquoi faire? Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ce qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la gloire, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Chapitre 2, versets 18 à 24. Verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont dans un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Amen. Donc l'apôtre Pierre est en train de nous dire, donc il parle ici aux chrétiens qui ont fui la persécution, mais il leur dit que de toute manière, vous pouvez fuir, vous allez souffrir. Et donc, les chrétiens doivent comprendre qu'est-ce que la souffrance dans leur vie. Dieu ne vous fait pas souffrir inutilement. On l'a vu tout à l'heure au chapitre 1, versets 6 à 8. La souffrance, Dieu vous fait passer par diverses épreuves afin d'éprouver votre foi. Et qu'à travers toutes les épreuves, vous puissiez glorifier Dieu. Là, il dit, c'est une grâce de supporter des afflictions. C'est une grâce d'avoir des problèmes avec son patron lorsque ce n'est pas votre faute. Est-ce que si vous arrivez tout le temps en retard et que le patron vous insulte, c'est Dieu qui est en train de faire quelque chose? Non. Bien sûr que non. Mais si vous faites tout ce que Dieu vous demande, vous aimez les uns les autres, vous arrivez à l'heure au travail, vous œuvrez, vous êtes là, vous êtes l'employé modèle. Et que malgré cela, le patron ne vous aime pas parce qu'il sait que vous allez à l'église ou parce qu'il sait que vous habitez dans tel quartier ou je ne sais pour quelle autre raison. Alors, la Bible dit, estimez-vous heureux. Ça ne sert à rien de faire il m'énerve et puis à insulter le patron. Si vous savez que vous n'avez rien fait, que votre conscience est pure, estimez-vous heureux. Car il semblerait que Dieu est en train de vous faire passer par diverses épreuves pour un but. Je ne sais pas quel est le but dans votre vie, mais c'est pour un but. C'est pour cela que, comme je l'ai dit, vous souffrirez en obéissant à Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour qu'on puisse le crucifier? Même Pilate dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il dit qu'il est roi, et alors, il est où son royaume? Ils sont où ses sujets? Non, mais c'est un homme fou, laissez-le. Et les Juifs qui disent, mais nous n'avons de roi que César. Si tu laisses Jésus dire qu'il est roi et que tu ne fais rien, tu es aussi complice. Pilate cherche une solution et dit, bon, voilà, c'est le 14 juillet, tous les 14 juillet, vous savez qu'il y a la grâce présidentielle où le président il peut libérer faire grâce à un prisonnier. Donc à la même époque aussi, c'était pas le 14 juillet, c'est bizarre, mais... Ah, vous avez cru que c'est le 14 juillet? Ah ouais. Bon, le 14 juillet, le président de la République peut gracier quelqu'un en prison s'il veut. Voilà, c'est la grâce présidentielle. S'il veut, il peut dire, bon, bah, toi, tu as volé, tu as fait ci, tu as fait ça, allez, tu reçois la grâce présidentielle, tu peux sortir de prison. Et donc, au lieu de faire 10 ans, ben, le président le fait sortir. Bon, là, c'était une autre époque, mais c'était à peu près la même chose. Où Pilate, il dit, voilà Barabbas, lui qui a tué plusieurs soldats romains et qui a fait ceci, cela, et voici Jésus. Donc, c'était la grâce, entre guillemets, présidentielle de Ponce Pilate. Donc, Ponce Pilate dit, bon, lequel je vais gracier, c'est-à-dire laisser libre pour clore cette histoire. Et tout le monde a choisi Barabbas. Non, ils ont dit de libérer Barabbas, de gracier Barabbas. Parce que Barabbas, il y avait combien de personnes sur la croix? Il y avait 3 croix. Jésus était au milieu. Mais Jésus a pris la place de Barabbas. C'est Barabbas et ses deux acolytes, ses deux coéquipiers qui auraient dû être crucifiés. La peine de mort pour avoir commis ces actes de rébellion, j'ai oublié le terme. Et on a choisi Barabbas. Est-ce que Dieu ne pouvait-il pas délivrer Jésus? Bien sûr. Mais Jésus a été obéissant jusqu'à la mort. Et il est passé par la souffrance. Est-ce que Jésus voulait absolument souffrir sur la croix? Non. Mais il voulait faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que dans le jardin de Gethsémané, il prie pour voir qu'est-ce que Dieu peut faire, ce qui est notre solution. Mais le livre des Hébreux est clair. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il fallait que notre Seigneur Jésus passe par ce genre de souffrance, passe par la mort pour que vous et moi, nous puissions être délivrés du péché. Et donc Jésus savait ce qu'il a donné. On a craché dessus, on a tiré sa barbe, on l'a humilié, on l'a trahi. Tout cela, vous risquez de connaître cela dans votre vie. Mais lorsque cela va arriver, parce que ça arrivera d'une manière ou d'une autre, d'une certaine intensité par rapport à d'autres, vous devrez tout le temps chercher à glorifier Dieu. C'est le comportement que vous devez avoir. Paul et Silas n'avaient rien fait, mais on les a mis en prison. Est-ce qu'ils ont contesté? Est-ce qu'ils ont dit, vous n'avez pas le droit? Non. La Bible nous dit que Paul et Silas étaient en train de chanter les gloires de Dieu en prison. Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient rien fait. Et qu'ils étaient en train de souffrir parce qu'ils étaient chrétiens. Ils étaient en train de souffrir parce qu'ils obéissaient à Dieu. Et souvent les chrétiens, ils ont peur maintenant de souffrir. Toutes vos copines font cela et vous demandent aussi de faire la même chose qu'eux. De vous habiller comme eux, extravagante ou de manière sexy. Et vous, vous n'avez pas envie, parce que vous vous dites que vous êtes chrétienne et que vous devez honorer votre corps qui appartient plus à vous, mais à Dieu. Mais vous avez peur d'être mise de côté. Peur de perdre vos copines. Alors vous les suivez. Vous refusez de souffrir. Vous voyez que la souffrance n'est pas forcément un coup de bâton. La souffrance, ça peut être l'exemple que je viens de citer. Juste pour ne pas que qu'elle se sente mise à part de son groupe d'amis, elle va également faire comme eux. Pourtant, Dieu nous appelle aussi à souffrir. Tant pis si nous perdons nos amis qui ne reflètent pas notre caractère. Tant pis si je reste seul et que je souffre seul parce que je n'ai pas d'amis. Ça fait partie de la vie. Souffrir, c'est ne pas faire comme nos camarades font. Souffrir, c'est aller à contre-courant, même quand les gens nous pointent du doigt, se moquent de nous. Aujourd'hui, nous avons honte lorsqu'on se moque de nous, parce qu'on n'est pas bien habillé, selon eux, selon le monde, ou parce qu'on ne fait pas comme eux. Qu'importe. Quand vous prenez le choix, la décision de devenir chrétien, sachez que vous serez appelé à souffrir, que vous allez passer par diverses épreuves. Et que si ces épreuves ne sont pas à cause du fait que vous avez volé, que vous avez menti ou que vous avez fait quelque chose de mal, c'est forcément Dieu qui cherche à être glorifié dans vos souffrances. Pierre continue et dit au chapitre 2, et au verset 18, serviteurs, donc, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile. C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il n'a point été trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Je pense que là, tout est dit. On pourrait même le souligner et le relire à la maison. Ce n'est pas moi qui le dis, la Bible est claire. Vous avez été appelés à souffrir en Jésus-Christ. Et ça, ça fait aussi partie de l'Évangile. Lorsqu'on vous annonce l'Évangile, effectivement, c'est une bonne chose de savoir que vous allez hériter le ciel, que Dieu est avec vous, que vous n'avez rien à craindre dans ce monde. Mais Comme Jésus-Christ a souffert pour vous, vous aussi, vous serez appelés à souffrir pour Jésus-Christ. Et comment? Tout simplement en obéissant à la parole de Dieu. Dieu vous demande de ne plus mentir. Alors, vous ne mentirez plus jamais. Mais plus jamais. Tant pis si on vous calomnie. Tant pis si on vous traite de tous les noms. Parce que tous les camarades de la classe ont menti. Et vous, vous êtes le seul à avoir dit la vérité. On vous accuse d'être celui qui marche derrière le professeur. Tant pis. Tant pis si tout le monde a triché et puis tout le monde a eu 19/20. Et vous, vous êtes le seul qui a eu un 10/20, ou un 9/20, ou un 8/20. Tant pis. Et quand vous regardez, vous dites, ah ouais, non, mais toi, t'es pas bien. Si, vous êtes bien. Parce que c'est écrit que comme Christ a souffert, vous aussi, vous allez souffrir. Et que vous n'allez pas suivre la facilité. Vous n'allez jamais suivre la facilité. Vous allez suivre tout le temps la voie de Dieu. Maintenant, je pense que vous avez compris que Dieu nous appelle à souffrir pour lui. Comment? Dans l'obéissance. Obéissez tout le temps à Jésus-Christ. Même si c'est difficile, même si vous ne comprenez pas ce qui est en train d'être fait dans votre vie, même si vous priez, vous priez, vous priez que la réponse ne vient pas, continuez à persévérer. D'ailleurs, Luc 16 nous dit bien, avec la femme qui frappait tout le temps à la porte du juge inique, la Bible nous dit que Jésus raconte cette histoire afin de nous enseigner qu'il faut tout le temps prier, persévérer dans la prière et qu'il ne faut jamais abandonner. Maintenant, je vais terminer avec mon deuxième point, que nous avons vu que nous sommes appelés à souffrir dans l'obéissance, pas inutilement. Le deuxième point que l'apôtre Pierre évoque ici dans son livre, c'est la gloire de Dieu. Dieu est glorifié lorsque vous souffrez pour lui. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de montrer à Dieu, je te fais confiance. J'ai confiance en toi. Tu ne m'abandonneras pas. Et Dieu aime cela. Rappelez-vous, le livre des Hébreux nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Glorifiez Dieu dans votre vie, dans votre manière de vivre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devriez changer? Quelque chose qui vous fait souffrir? Quelque chose que vous n'avez pas envie de changer, mais vous savez pertinemment qu'il faut changer. Regardez ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Je reprends le verset, c'était le verset 1, chapitre 1, le verset 7. 1 Pierre 1, verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, l'épreuve de votre foi. Mais Dieu est en train de nous éprouver. Dieu est en train de nous demander, est-ce que véritablement nous lui faisons confiance? De la même manière qu'il avait demandé à Abraham de sacrifier son fils. Êtes-vous prêt à sacrifier ce qu'il y a de plus cher pour suivre Dieu? Qui t'a passé dans la souffrance. Est-ce que vous croyez que Abraham a voulu crucifier son fils, Isaac, de gaieté, de bon cœur, avec la joie? Bien sûr que non. Il a attendu si longtemps pour avoir un enfant avec Sarah, et maintenant Dieu lui demande de sacrifier Et vous savez ce que le livre des Hébreux nous raconte sur Abraham? Abraham crut en Dieu. Abraham s'est dit, si Dieu m'a donné un fils à cet âge-là, à Sarah et à moi, sûrement il peut le faire revenir à la vie. Et c'est comme cela que Dieu a été glorifié. Au moment où Abraham allait crucifier son fils, Dieu l'arrêta et pour lui dire, c'est bon, je vois. Dieu est glorifié. Il aime cela quand on lui fait confiance, quand tout ne va pas bien. Satan est venu voir Dieu et a dit à Dieu, regarde, non, Dieu lui qui dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Vous connaissez l'histoire de Job? Et Satan dit, mais c'est normal. Job, il te suit parce que tu lui donnes tout. Tout va bien dans la vie de Job. Il a des enfants, il a des serviteurs, il a des bœufs, il a des moutons, il n'a besoin de rien. Il a tout ce qu'il faut. Mais, si jamais tu lui enlèves ses biens, ses enfants, tu verras comment Job va te renier et t'insulter. Et Dieu autorise Satan à attaquer, à détruire les biens de Job, même ses enfants. Satan s'exécuta. En une journée, Job perdit tous ses bétails, tous ses animaux, tous ses enfants, tous ses biens. Mais Job resta fidèle. Bien qu'il ne comprenait pas, il n'avait pas une connaissance parfaite de Dieu. C'est-à-dire, vous connaissez plus Dieu maintenant que Job. Parce que la révélation d'aujourd'hui que nous avons de Dieu est beaucoup plus complète que ce que Job avait. Job resta fidèle. Et Satan revient et dit, ouais, d'accord, c'est parce que laisse-moi l'attaquer, laisse-moi... Voilà. Et Dieu l'autorisa. Et qu'est-ce qui se passa après que Satan attaquait tous les biens de Job? Satan attaqua Job physiquement. Mais Dieu l'interdit de le tuer. Il tomba gravement malade. Il eut les ulcères. Il dit, oh là là, vous ne pouvez pas imaginer. Au point où même sa femme, la femme de Job, dit, écoute, insulte Dieu et puis meurs. Vous vous rendez quoi? Job qui dit, non, tais-toi, tu racontes des bêtises, tu ne sais pas ce que tu racontes. Et Job persévéra, quand même à glorifier Dieu. Et cela a plu à Dieu. Et Satan même avait honte, il ne comprenait pas. Satan ne peut pas comprendre comment les chrétiens puissent rencontrer des difficultés dans leur vie, puissent avoir des problèmes de santé, de graves problèmes de santé, prier, ne pas être guéri, et puis quand même glorifier Dieu. Et le verset nous dit, c'est là ce qui fait votre joie, hein? Le verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Votre foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et donc Dieu va vous faire passer par toutes sortes d'épreuves pour éprouver votre foi, fortifier votre foi, augmenter votre foi. Vous savez, il y a des chrétiens, ils disent, oh Seigneur, augmente ma foi. Et vous savez ce que ça veut dire, augmente ma foi? Ça veut dire que Dieu va vous prendre et puis Dieu va vous faire passer tout en bas par toutes sortes de difficultés. Eh oui. On veut une grande foi, on veut aimer Dieu. On veut... Oui. Et Dieu va vous prendre, vous dire, très bien, je vais fortifier ta foi. Fortifier ta foi, Dieu ne va pas vous prendre et puis vous envoyer comme ça en l'air, comme si vous étiez un héros et puis vous faire hip hip hip, oura, oura. Non. Il va vous prendre, il va enlever tout ce que vous avez, vos vêtements, et puis il va vous faire passer dans la boue, il va vous faire passer dans les difficultés, dans les piquants, dans les ronces, et voilà.
Ce sont des épreuves.
C'est des épreuves. Et à aucun moment il faut insulter Dieu. Glorifier Dieu. Si, on revient à ma première partie, vous souffrez parce que vous êtes obéissant. Nous sommes d'accord. Si c'est parce que vous avez volé et que vous allez en prison, c'est pas Dieu. Bien que Dieu peut faire des choses encore. Mais si vous tombez sur un vieux policier qui vous frappe, qui vous machin, qui vous met en prison alors que vous n'avez rien fait, n'insultez pas Dieu. Mais dites-vous, une fois en prison, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Une fois que vous êtes dans votre cellule, chantez. Chantez la louange de Dieu. D'où l'importance de connaître certains chants par cœur. Eh oui. D'où l'importance de même connaître la Bible, certains versets par cœur. Parce que certaines fois, vous serez dans des endroits où vous n'aurez pas de Bible, pas de livre de chant. Vous croyez que l'apôtre Paul et Silas, ils avaient un livre de chant? Ils avaient ça? Bon, Silas, c'est bon, où est Dieu? Page... Non, c'est des chants qu'ils connaissaient par cœur. Parce que c'est des chants qui voulaient leur dire beaucoup de choses. Et ils faisaient confiance à Dieu, ils mettaient leur confiance à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu est encore plus glorifié. Donc, chers amis, frères et sœurs, la souffrance fait partie de la vie des chrétiens. Il faut que nous puissions comprendre cela et l'accepter. Et l'accepter parce que, d'une manière ou d'une autre, Dieu travaille dans notre vie en nous faisant passer par diverses épreuves. Peut-être que vous allez tomber gravement malade. Peut-être que vous aurez un patron très difficile. Peut-être que c'est votre voisin qui va à chaque fois envoyer du poisson pourri chez vous, je ne sais pas, dans votre cour. Oui, ça peut être tout et n'importe quoi, la souffrance. Parfois, c'est des problèmes avec la justice, alors que vous n'avez rien fait. Parfois, vous étiez là au mauvais moment, au mauvais endroit. Tout le monde a été arrêté, vous aussi, alors que vous ne faisiez que passer pour aller acheter du pain au chinois. On ne sait pas comment Dieu dirige les choses. Mais sachez bien que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et qu'il vous fera passer, d'une manière ou d'une autre, par toutes sortes d'épreuves. Et que vous, vous devez comprendre cela pour que vous puissiez apprendre à glorifier Dieu. Ne tombons pas dans l'extrême où on dit que moi, les chrétiens, moi, chrétien, on n'a pas de problème. On n'a pas de difficulté. C'est faux. Vous savez, dans certaines religions, dans certaines églises, où des gens, des pasteurs vont prier pour que les gens soient guéris, et quand la personne n'est pas guérie, vous savez ce qu'ils disent? Voilà, t'as pas la foi. Ils n'ont pas lu la Bible. Ils n'ont pas vu que Timothée était malade. Paul lui a dit de prendre un peu de vin, un peu d'eau pour son problème d'estomac. Ils n'ont pas vu qu'Épaphrodite était malade, tout près de la mort, que même Paul n'a pas pu faire grand-chose que prier, prier, et que Dieu a pu guérir Épaphrodite. Ils pensent que nous avons une sorte de Dieu, génie, qui répond à tous nos besoins et qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est vrai, mais pas comme ils le pensent. Dieu donne tout ce dont nous avons besoin de capital et de vital. Vous allez tout le temps avoir à manger et vous allez tout le temps avoir un toit sur votre tête et des vêtements. Par contre, Dieu n'a jamais promis que vous aurez un vélo ou une voiture. Mais Dieu assure que vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Donc, apprenons à faire confiance à Dieu à travers toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer, notamment dans la souffrance. Si Jésus-Christ a souffert, il n'y a aucune raison que nous ne puissions pas souffrir aussi. Au contraire, Dieu nous montre que nous allons aussi souffrir comme Jésus-Christ a souffert. Donc, tenons bon, restons fidèles à la parole de Dieu et puis cherchons à glorifier Dieu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Amen. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce et nous te remercions pour tes bienfaits. Merci, Père, de nous montrer à quel point il a été vital que tu puisses faire passer Jésus-Christ à la croix, Seigneur Dieu. Effectivement, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Tu l'as voulu ainsi. Tu as voulu qu'on puisse passer par la souffrance parce que c'est l'instrument que tu utilises afin que nous puissions te demeurer fidèles, afin que tu puisses voir qui est véritablement à toi et ceux qui ne sont pas à toi. Père, garde-nous, Seigneur Dieu, garde nos cœurs et nos pensées, et aide-nous afin que nous puissions continuer à avancer dans la vie chrétienne malgré les difficultés. Père, que ceux qui ne sont pas encore sauvés puissent comprendre
cela et qu'ils ne puissent pas avoir peur, car de toute manière, la vie est difficile et ils rencontreront bien des difficultés avec ou sans toi. Père, pourvu que ce soit avec toi que nous rencontrons les difficultés, s'il te plaît. Nous t'avons prié ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.